Dans 40 minutes débutera le match numéro 7 entre les Bruins de Boston et les Blues de Saint-Louis. Assez parlé de statistiques, assez parlé d'histoire, c'est le temps de parler de hockey. Danny Zbé est avec nous pour ça. Salut Danny.
Salut Jérémy.
Bon, OK, là on a parlé de tout, mais là on va parler de la game de hockey. Mais j'ai une question qui est... Écoute, sans débuter avec le hockey, j'entendais tantôt Maxime Talbot nous parler du facteur stress. Il dit « Moi, je me suis forcé à dormir la veille de ce match numéro 7. Je devais être reposé. » Parle-moi du facteur stress dans ce duel ce soir entre les Bruins de Boston et les Blues de Saint-Louis.
Écoute, déjà, l'entraîneur dort mal. Il sait que c'est très rare que les joueurs sont à l'aise avec un match numéro 7 avant de le jouer. Ils sont à l'aise sur la glace. Mais la période d'attente, c'est interminable. Donc, c'est très important quand la journée du match, que tu sois bien structuré, que tout le monde, on soit dans la routine, tu comprends? Parce que c'est comme ça que tu élimines le stress. La routine, la rigueur, tout ce que tu fais habituellement, là, c'est ce qui te protège. Ça te protège de trop réfléchir, de remettre des choses en question. Ça te garde dans une espèce de... d'état de contrôle. Mm-hmm. C'est plate à dire. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais
on comprend.
C'est vraiment ça. Les gens, d'ailleurs, qui performent au travail vont te dire probablement la même chose. J'arrive toujours à telle heure, je fais toujours telle chose en premier, telle chose en deuxième. Ça m'aide à préparer ma journée. Habituellement, je vois ma journée avant de la faire, c'est-à-dire la veille. C'est probablement ce que les joueurs ont fait, réfléchir, regarder, visualiser. Quand je dis regarder, c'est bien sûr visualiser leur match, etc. Donc, l'entraîneur, quand tu arrives à l'aréna, il n'y a pas grand-chose à faire à part maintenir l'espèce de quotidien, tu comprends? Et de surtout de pas trop s'éloigner de ce quotidien-là.
OK, Danny, si t'es l'entraîneur des Blues de Saint-Louis, Craig Berube.
Hey, je suis chanceux. Hein,
oui, t'as une belle job, tu vas jouer un match numéro 7.
Ben, c'est une opportunité incroyable.
Ah, clairement. Ouais. Mais mon point est le suivant, on parle de stress, facteur stress. On a Binnington d'un côté, Tuukka Rask, un gars d'expérience avec un jeune qui a connu une saison incroyable. Est-ce que, dans le cas de Berube, tu dis, regarde, je me croise les doigts ou plutôt je suis en confiance avec Binnington devant le filet?
Non, je pense qu'il est en confiance. C'est lui qui l'a amené là. Il se remet. La dernière chose que Berube va faire, c'est de se remettre en question par rapport à l'utilisation de son personnel. Parce que ces gars-là l'ont amené là. Maintenant, si je me suis amusé à faire un petit jeu. J'ai regardé, je me suis dit, c'est quoi les deux, trois affaires les plus importantes pour chacune des deux équipes? Mm-hmm. Puis pourquoi je te dis ça, c'est que à un moment donné... Quand j'étais au programme olympique, j'avais un joueur qui jouait dans mon équipe, il s'appelait Jackson Penny. Mm-hmm. Ça ne dit rien à personne, mais c'est pas grave, l'histoire est le fun.
OK, vas-y.
Jackson Penny, c'était un joueur qui jouait, je pense qu'il jouait à Victoria, il jouait dans l'Ouest canadien, anyway, dans le junior. Puis c'est un gars qui avait un tir frappé foudroyant, un coup de patin extraordinaire, mais qui avait de la difficulté à prendre sa boîte d'outils, l'ouvrir et tout faire marcher ensemble.
Okay. Bon, hein?
C'est pas. Puis lui, quand il tombait dans une léthargie, là, Jérémy, c'était pathétique. Il n'était plus capable de rien faire.
Il perdait ses moyens, c'est ça.
Il perdait ses repères, ses moyens, et puis il n'était plus capable de rien faire. Et là, à un moment donné, les discussions de coach, à l'époque, on est deux. Là. Il n'y a pas d'entraîneur adjoint. Là. On est deux entraîneurs associés. On est assis, toi et deux. Et Tom Rennie ne boit pas de café. Ça fait que lui, il a un thé, puis moi, j'ai un café. Puis là, on jase de ça. Là. Puis à un moment donné, on dit, on va y simplifier ses affaires. On va lui donner deux, trois choses à faire. Et à Jackson Penny, on a dit, quand ça fonctionne pour toi, tôt dans le match, tu touches à la rondelle.
Okay.
Tu n'attends pas après la rondelle. Tu touches à la rondelle 2, tu lances tôt dans le match. Parce que tu as un bon tir, donc c'est ça qui te donne confiance. Tu as l'impression que tu t'approches de ton objectif, marquer un but. Donc, ça, c'est la deuxième affaire. Et 3, quand tu te mets dans le trouble, c'est parce que tu décolles trop vite de la zone. Tu pars trop rapidement, tu triches, tu essaies d'avoir une chance de tirer rapidement. Et en t'éloignant de la zone, tu t'approches des défenseurs adverses, tu t'enlèves des chances. On a dit, regarde, on va faire... Ça, c'est les trois choses qu'on va te demander de faire. Et moi, je vais les écrire sur un papier. Je vais les avoir avec moi. Quand ça ne marche pas, je vais te montrer le papier. Écoute, on est dans le programme olympique, là. Mais le joueur, là, des fois, il me disait, pull out the paper. Oh. Show me the stuff.
Il s'en souvenait plus.
Il s'en souvenait même plus.
mais le point mais que tu amènes, c'est intéressant. Puis si on tourne ça ce soir...
Simplifier les affaires.
Exact. Mais si on tourne ça au Blues de Saint-Louis, eux qui n'ont peut-être pas la même expérience que les Bruins de Boston, eux doivent absolument simplifier les choses ce soir.
Absolument. Fait qu'eux, ils ont deux, trois affaires importantes à réaliser qui vont leur permettre de gagner le match. Un, discipline à outrance. C'est trois pénalités ou moins. Pourquoi? Parce que depuis le début des séries, lorsqu'ils écopent de trois pénalités ou moins, leur chance de gagner augmente considérablement. D'ailleurs, c'est une des équipes les plus disciplinées depuis le début des séries, les Blues, et leur moyenne, c'est 7,4 minutes. Donc, c'est presque 4. Lorsqu'ils sont capables d'être à 3, donc 6 minutes de pénalité, ils sont en business. La deuxième chose, ils vont jouer sur la patinoire des Bruins de Boston. Ce sera donc un match pour eux s'ils veulent gagner à bas pointage. Mais ça va leur prendre 3 buts pour gagner. Donc peut-être un filet désert, je ne sais pas, mais dans leur tête, là, c'est 3. Le chiffre magique, c'est 3. Et le dernier élément, parce que je m'amusais à faire, c'est ma règle de 3, là, ben, le chiffre 3 est important. Ils devront avoir 3 trios qui contribuent. Mm-hmm. Ils sont à la remorque de 2 trios depuis le début des séries. Leur 4e trio n'a pas été aussi bon que dans la série contre les Sharks de San Jose. À l'inverse des Bruins de Boston, les Bruins qui ont eu la contribution très, très soutenue du 4e trio. Donc ça, c'est vraiment, je pense, 3 des éléments clés qui vont permettre aux Blues de Saint-Louis d'avoir du succès contre les Bruins de Boston sur la patinoire. Des Bostonnais.
OK. Maintenant, du côté des Bruins, veux pas, on est humain. D'après moi, je dis bien d'après moi, puis tu me diras ce que t'en penses, on est au courant qu'on est favori pour gagner ce match-là. On est au courant qu'on est à domicile. On est au courant qu'on aura beaucoup de travail. Comment on doit planifier ce match-là du côté des Bruins de Boston?
Ben, pour avoir déjà perdu quand j'étais favori, là, on va dire ça en partant. Là.
OK.
Non, mais tu sais, c'est la meilleure manière de le savoir, c'est de l'avoir vécu. Là.
Clairement.
Puis c'est pas vrai que les gens qui font ce qu'on fait ont toujours gagné, pas toujours réussi. Là. À un moment donné, là, celui qui devient champion, c'est celui qui essaye plus les autres. Là, à force de persévérer. Mais je pense que les Bruins de Boston, leur enjeu majeur, c'est les trois zones. D'être capable de jouer avec la rondelle dans les trois zones. Ils ont eu un certain succès à jouer avec la rondelle en zone neutre et en zone adverse, mais des fois, ça a été difficile dans leur propre territoire à cause de l'échec avant des Blues de Saint-Louis. Donc, ce soir, c'est important pour eux d'être en contrôle. Ça veut dire d'être patient, de se donner des options de passe, de travailler en unité de 5. Ça, c'est, pour moi, là, si les Bruins sont capables de faire ça, ça veut dire qu'ils vont être en contrôle de la rondelle. S'ils sont en contrôle de la rondelle, ils sont en contrôle du match. S'ils sont en contrôle du match, ils sont capables d'utiliser leur vitesse. S'ils utilisent leur vitesse, ils vont assommer les Blues. S'ils sont pas capables d'utiliser leur vitesse, ça veut dire qu'ils travaillent pas en unité de 5. Ça veut dire que les avants et les défenses sont pas ensemble. Et l'espèce de domino, l'effet domino va leur faire très, très mal. L'autre chose pour les Bruins de Boston, c'est l'enjeu de jouer pendant 60 minutes de façon engagée en unité de 5. Parce que des fois, ce qui se passe avec les Bruins, c'est que les avants puis les défenses, tout à coup, les défenses sont rendues en avant. Mm-hmm. Puis là, si les attaquants prennent pas conscience de ça, ben là, il y a des trous, il y a des brèches. Fait que ça cause des problèmes. Et c'est le premier problème que ça cause, c'est dans le retour dans le territoire, dans l'enclave. C'est pour ça que les Bruins, un, doivent travailler en unité de 5, deux, travailler dans les trois zones ensemble, et trois, être toujours trois joueurs à défendre l'enclave, c'est-à-dire les deux défenseurs puis un joueur. Plus souvent qu'autrement, ce sera le joueur de centre, mais disons le premier joueur en repli défensif. Pourquoi? Parce que Tuukka Rask va quand même être leur meilleure opportunité de gagner. S'il joue de la façon dont il a joué depuis le début des séries, cette équipe-là va gagner. Mais pour ça, il faut l'aider. Et si tu es trois dans l'enclave, tu sais aussi bien que moi, Jérémy, que ça veut dire qu'il faut que les défenseurs de l'équipe adverse, pour tromper ta vigilance ou celle de ton gardien, devra être dans l'enclave. C'est loin en titi à partir de la ligne bleue.
Ah, oui, exactement. Et surtout qu'on a vu Tuukka Rask dans des matchs importants dans les séries de fin de saison. Entre autres, le match 7 contre Toronto accorde un but. Le match 6 contre Columbus, aucun but. Match 4 contre Caroline, aucun but. Match 6 contre Saint-Louis, un but. Donc, c'est un gars dans un moment important qui ferme la porte totalement, là.
Oui, puis c'est un gars qui est affamé. On se souvient pas de Rask qui a pas gagné encore la Coupe Stanley, puis Rask qui a regardé les autres jouer, puis qui était sur le bout du banc. C'est son tour. Puis je pense que lui, il est prêt. Il est prêt, il a souffert, il a passé un certain temps à, comment je dirais ça, à mijoter tout ça. C'est en dedans de lui. Ça a fermenté, c'est prêt. Lui, il est prêt à gagner, là. Puis, je trouve que dans ce qui nous démontre, le type de performance, c'est ce qu'il envoie comme message. Hey, c'est moi qui est en contrôle, puis c'est moi qui est prêt à gagner.
Du côté des Bruins de Boston, il y a un joueur, je veux absolument juste prendre quelques instants rapidement, ah oui? qu'on parle de lui, Patrice Bergeron. Mm-hmm. Patrice Bergeron, je regarde l'humilité de ce gars-là, la façon dont il se comporte, comment il est avec ses joueurs, comment il joue sur la patinoire. Tu sais, t'as un match numéro 7, tu veux avoir Patrice Bergeron de ton côté, là.
Ben, c'est une force tranquille, hein, Patrice Bergeron. C'est un joueur qui, ses émotions, très, très rarement, il déborde. Il est tout en contrôle, il est focus. C'est le genre de joueur que tu vas avoir dans ton alignement parce que tu sais que dans les matchs comme ceux-là, il y a beaucoup de débordements. Puis les débordements, c'est pas juste à l'extrême, c'est aussi dans le négatif. Tu sais que match numéro 7, là, c'est 2-3 buts d'écart, il y en a qui abandonnent. Mmh. Ils regardent ça, mais tu veux avoir des joueurs qui vont être constants pendant 60 minutes. Les Bruins de Boston, ils ont cette... C'est un privilège, tu sais, d'avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu au cours des 10-12 dernières années. C'est particulier. Et tout à leur avantage, parce que c'est leur repêchage, c'est le développement des joueurs, c'est la transition, tout ce qu'ils ont réussi à faire. On peut aimer ou pas aimer les Bruins de Boston parce qu'on est Canadien de Montréal et on n'aime pas les Bruins. Mais on doit reconnaître que les Bruins vont faire grandir le Canadien de Montréal. La façon dont ils se comportent actuellement, la façon dont ils jouent, ils vont mettre la barre très, très haute pour le Canadien. Ils vont donc forcer le Canadien à côtoyer l'excellence à nouveau. Et Patrice Bergeron, quand le Canadien aura dans son alignement un Patrice Bergeron, puis tu sais, Philippe Dano dit souvent, moi, mon idole, c'est Patrice Bergeron. Je trouve ça super parce que ça veut dire, moi, je regarde ce gars-là, puis c'est ce que je veux devenir. Mm-hmm. Puis, je pense que c'est la seule façon qu'une organisation ait l'humilité, démontre l'humilité, c'est la seule façon d'un peu grandir. C'est-à-dire, regarde, mon adversaire, peut-être le plus farouche, le plus féroce, c'est un gars que j'admire, pas un gars que je déteste. Mm-hmm. Puis comme ça, ça va me permettre de grandir, puis un jour, peut-être, de le dépasser. Puis c'est la grâce qu'on souhaite à Montréal, évidemment. Mais quand tu as Bergeron dans ton alignement, tu sais que dans toutes les phases de jeu, tout à l'heure, je parlais des trois zones, là. Ben, capitaine trois zones, c'est lui.
Clairement. C'est un gars qui est tellement... C'est un pilier incroyable. Moi, sincèrement, je pense que c'est un joueur que tu veux absolument avoir dans ton équipe dans un match aussi important. Ouais. Danny, le
t'sais,
temps...
Tu sais, Jérémy, oui, le temps file, mais je veux dire une chose pour les gens qui sont entraîneurs et tout ça. Il n'y a rien de plus beau qu'un joueur qui sait qu'il a fait une erreur. Quand tu as Patrice Bergeron dans ton alignement, il n'est pas parfait, là. Un, il sait, il a l'humilité. Puis deux, quand il a fait une erreur, il travaille pour la récupérer. Pendant qu'il a fait l'erreur, il vient de le avant même des fois, on le voit dans son jeu. Puis ça, c'est une richesse inestimable. Parce qu'il y a bien des joueurs qui, aujourd'hui, gèrent moins bien tout ce qui vient avec les conséquences des erreurs. Mm-hmm. Puis c'est certainement pas le cas de Patrice Bergeron. Ça en fait un joueur responsable, ça en fait un joueur mature. Et c'est le genre de joueur que tu veux suivre dans les moments comme ceux-là.
Danny, écoute, en 10 secondes seulement, j'ai posé la question à François Gagnon. Avec toute l'expérience que tu as, avec toutes les coupes Stanley que tu as vues, est-ce que ça te fait encore triper quand on sort le gros trophée, quand c'est la finale de la Coupe Stanley et on donne ce gros trophée?
En fait, le moment qui me fait triper, c'est là. C'est d'en parler avant. De voir le trophée sortir, tout ça, je trouve ça génial. Mais je suis pas dans ces émotions-là. Moi, mes émotions, c'est des émotions d'analyste. C'est pas des émotions de gars qui sont dans l'action.
J'entends le coach qui parle. Oh,
non, mais c'est
ils
vrai.
Ils sont même les coachs.
C'est vrai.
C'est des vulcains. Ils ont pas d'émotions.
Je suis obligé de te le dire. Mes émotions, je les ai. Ah non, j'en ai des émotions. Mais ils sont maintenant. Okay. Et pour moi, là, j'ai hâte de voir le match. Je trippe. Match numéro 7. Il y a tellement de choses à l'enjeu. Mais en même temps, tout ce qui vient avec la coupe, puis le moment, ça appartient à des athlètes extraordinaires. Je ne fais pas partie de cette catégorie de gens-là. C'est ça. Moi, je suis à l'extérieur, je regarde ça d'une autre façon. Mon émotion, ma passion est ailleurs.
Bien, c'est pour ça qu'on t'apprécie, Danny Dubé. Je te souhaite un bon match numéro 7. Merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir. Bye
merci,
bye.
Au revoir. Danny Dubé qui nous parlait de ce duel numéro 7 ce soir. OK, on s'arrête quelques instants. 119e édition du US Open. Ça se passe à Pebble Beach demain. Et savez-vous quoi? Le gars qui a gagné les deux derniers tournois du US Open n'est même pas dans les promos de télévision. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Dave Lévesque, le spécialiste de golf, est avec nous au retour. Restez là.